justice qui va revenir ce soir sur un procès oublié peut-être des Français, on verra, le procès Pétain. Le 20 octobre 1940, Pétain terminait ainsi, non sans une certaine grandiloquence, son adresse aux Français. « Telle est ma politique, mes ministres sont responsables devant moi, et c'est moi qui serai jugé par l'histoire. » Il s'attendait probablement pas à être jugé à l'été 1945 par une haute cour de justice spécialement créée à cet effet, ni probablement à être condamné à mort par cette juridiction. La justice des hommes s'est montrée plus entière et plus expéditive que sa consœur. Et d'ailleurs, un journaliste affirmait à l'époque que le principal témoin de ce procès, c'est la France entière, vaincue, trompée et trahie. Mais qui jugeait-on au juste dans ce procès ? Un maréchal de France ? Un vieillard à moitié gâteux ? Ou la France collaborationniste ? La cause n'était-elle pas un peu trop grande pour tenir en 3 semaines dans une salle d'audience trop petite, bondée, et saturée de sentiments hostiles, voire de haine? Ne dépassait-elle pas les compétences de ces magistrats qui tous avaient prêté serment à l'accusé, c'est-à-dire à Pétain? Ce procès était-il vraiment nécessaire et qui a-t-il servi? La justice? La politique? N'a-t-il plutôt pas servi d'exutoire à une France commotionnée? Est-ce qu'il n'a pas réactivé la funeste fonction sacrificielle malheureusement inhérente à tout procès en permettant à un pays tout entier de condamner à mort une page sombre de son histoire? Alors pour essayer de mieux comprendre ces enjeux, pour mieux tirer les leçons de ce procès atypique, Esprit de Justice a le plaisir de recevoir ce soir Julian Jackson, qui est professeur d'histoire à Queen Mary, à l'Université de Londres, et qui est l'auteur d'une biographie de référence du général de Gaulle. Mais il vient de signer un livre publié aux éditions du Seuil, Le procès Pétain, Vichy face à ses juges, qui a été traduit par Anne-Marie de Béru, mais dont le titre original était différent en anglais.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir, Julian Jackson.
Bonsoir.
Alors, le titre était différent en anglais. C'était pas le procès Pétain.
Non, c'est pas le même titre. En fait, le titre que j'avais pensé au début, en fait, avant de commencer le livre, allait être The Trial of the Century, le procès du siècle. Et puis, un collègue, ami en Angleterre, m'a dit, en fait, il y a eu beaucoup de procès de siècle. Il y a eu, je sais pas, O.J. Simpson.
Oui, donc, oui. Nuremberg.
Il a suggéré un autre titre qui est le titre que j'avais pris pour la version anglaise, France on Trial, la France en procès. On n'a pas gardé le même titre pour la version française, pas parce que, je ne sais pas si ça gênait des gens, parce que quand j'ai présenté le livre, quand le livre est sorti en Angleterre au mois de juin, j'ai fait une présentation à l'Institut français de Londres, et en fait la personne qui organisait m'a dit, je ne sais pas si on peut afficher comme titre France on Trial, peut-être ça semblait avoir un petit parfum anti-français qui n'était pas mon cas. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce titre, France on Trial, la France en procès? En fait, mon idée, c'est que la France n'était pas le seul pays en Europe où il y a eu des procès après-guerre. Il y a eu nécessairement des règlements de compte, des procès, etc.
Pas la même chose.
Non, c'est pas la même. Je sais. Ben, on peut revenir, d'accord. Oui. Et donc, il y a eu, bien entendu, les procès de Nuremberg. Il y a eu les procès de Tokyo, où on a jugé les dirigeants japonais, etc. Mais pour moi, le procès Pétain était différent de ces deux procès très importants, parce que dans les deux autres cas, c'était les alliés, les étrangers, si vous voulez, qui jugeaient les coupables japonais ou allemands. Donc, on pourrait peut-être mieux comparer le procès Pétain à notre comparaison possible serait le procès du chef collaborateur Quisling oui. En Norvège, qui était jugé par une cour norvégienne. Pour moi, la différence, donc ça c'est peut-être plus ça ressemble un peu plus au procès Pétain, mais pour moi la différence c'est que Quisling n'était personne. En fait,
ah oui,
il n'y avait pas. C'était vraiment un extrémiste qui avait très peu de. Il y avait une espèce de mépris envers lui, tandis que Pétain était dans un sens comme un archevêque, l'archevêque de Lyon a dit en 1940 à Lyon, à, je crois que c'est Gerlier, le cardinal Gerlier dit Pétain, le maréchal Pétain est la France. Donc dans un sens, c'est les Français qui jugeaient pas n'importe un petit quelque sans importance, ils jugeaient la personne qui avait dans un sens incarné la France, pas que pendant l'occupation, mais pendant les années 30, c'était le grand héros de la France, de la Première Guerre. Il était pour moi un peu déjà un maréchal de France. Oui, il y a très peu de procès de maréchaux, déjà, il était plus qu'un maréchal. Il était presque un dieu. Oui. Il était comme tous les dirigeants militaires des autres pays, Ludendorff, Foch, Haig, rassemblés en une personne. Il était beau, il avait une certaine allure. Et donc, il était dans un sens... Et quand il a dit, dans ce discours très, très célèbre, en juin 40, il a dit « Je fais le don de ma personne à la France ». Il y avait une espèce d'identité entre ce maréchal et la France. Donc, le procès que je voulais étudier, c'est les Français qui jugent un Français qui était dans un sens pendant une période de la France. Donc, c'est un débat entre Français. Sur la culpabilité ou non de ce grand héros.
C'est ça. Alors, sur la culpabilité collective, on y reviendra. Et sur savoir si cette explication a véritablement eu lieu. Mais est-ce qu'il était voulu, ce procès? Est-ce qu'il était anticipé? Est-ce que tout le monde l'attendait? Comment est-ce que...
Bon, c'est-à-dire, déjà, quand il arrive à Londres, en juin 40, dans un discours très tôt, en juillet 40, de Gaulle disait quelque chose déjà comme les coupables vont être jugés. En fait, c'était des paroles en air en juillet 40, parce que de Gaulle n'était personne. Mais déjà, cette idée que les traîtres, les coupables, ceux qui ont livré la France aux Allemands, etc., etc., devront être jugés. Donc, déjà, c'était, je pense, impossible à éviter si Vichy est vaincu. Alors, quand de Gaulle arrive en Alger, juin 43, une des premières choses que le nouveau presque soi-disant gouvernement de CFLN décide, c'est il y a une ordonnance qui dit qu'on va juger les gens qui ont trahi la France, etc. Donc, c'était voulu. Les mécanismes, les processus étaient à définir, mais je pense que ça aurait été impensable. Il y avait une volonté de la résistance. Oui. De Gaulle aurait, parce que la volonté de Gaulle, c'était de panser les plaies, c'était de réconcilier les Français. Mais, il fallait quand même avoir cette transition, si vous voulez, entre le monde ancien, le monde Vichy, et le nouveau régime. Donc, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était voulu? Oui. Même si de Gaulle ne voulait pas un procès Pétain avec Pétain en personne. Il aurait préféré un procès par contumace, vous dites en français? Parce qu'en fait, quand la haute cour qui avait été créée en novembre 44 avait été établie pour juger les grands personnages de Vichy, évidemment, Pétain était le plus important de ces personnages. Mais à l'époque, Pétain était en Allemagne. Il avait été kidnappé dans un sens par les Allemands, où le Vichy traînait ses derniers jours dans une espèce de château surréaliste sur lequel Céline a écrit un roman tout à fait.
Et dans lequel il était, Céline.
Il n'a pas été le médecin du château parce que, un jour, quand on a proposé à Pétain que Céline devienne son médecin, Pétain a dit plutôt mourir Céline. Mais Céline est là. Mais donc, Pétain n'est pas présent quand la haute cour commence ses travaux. Mais et de Gaulle aurait préféré en fait qu'il soit pas présent, mais quand l'Allemagne nazie s'écroule, Pétain se présente à la frontière suisse, il passe par la Suisse, et puis le 21 avril 45, il se présente à la frontière franco-suisse. Et donc, de Gaulle est obligé d'avoir un procès. Mais il dit, quand on lui dit que Pétain s'est arrivé, il est encore venu nous emmerder. Pourquoi est-ce que de Gaulle, qui avait une relation très compliqué oui. avec Pétain. Toute une histoire. On pourrait en parler
longuement. Il se connaissait très bien.
Et De Gaulle avait... Ses sentiments envers Pétain étaient très compliqués. Je dis deux anecdotes, si vous voulez. De Gaulle... Quand il était jeune, avait travaillé dans le cabinet de Pétain à partir de 1925, à aider Pétain à écrire une histoire de l'armée française. Mais De Gaulle disait toujours après, le maréchal Pétain est mort en 25. Et c'est quand même étrange parce que c'est l'année où Pétain l'a pris. Mais ce qu'il voulait dire par le maréchal Pétain est mort, c'est que Pétain, dans un sens, son cerveau était figé. Il n'était plus capable d'assimiler des idées nouvelles. Et De Gaulle était aussi, De Gaulle n'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'adulation. C'était pas son genre. Et il n'aimait pas cette atmosphère feutrée d'admiration qui entourait Pétain. C'était tout à fait le contraire de De Gaulle. Donc il disait, Pétain était un grand homme qui est mort en 25. À la mort de Pétain, en 1951, De Gaulle était à côté de Georges Pompidou. Georges Pompidou était à côté de lui, c'était un de ses collaborateurs. Et Pompidou lui dit, Pétain est mort. Il y a une hésitation, et De Gaulle dit, oui, le maréchal est mort. Et donc, il voulait dire qu'il faut avoir du respect. C'est le maréchal. Malgré tout, c'est le maréchal. Donc, je pense que ces deux anecdotes montrent, en fait, la complexité des rapports de De Gaulle et Pétain. Et pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas un procès? Il ne voulait pas un procès parce qu'il savait que, et il avait raison, que Pétain avait énormément d'admirateurs, que les Français étaient toujours sous la... Hypnotisé, c'est pas trop fort, mais il y avait un lien émotionnel, passionnel entre Pétain et les Français.
Toujours qui en 45.
Toujours. Je pense qu'en fait, longtemps après. Et De Gaulle savait que pour beaucoup de gens, Pétain était, il y avait deux héros. Mmh. Il y avait le héros De Gaulle qui était l'épée, entre guillemets, et le héros Pétain qui était bouclier, etc. Mmh. Et donc, De Gaulle savait que il était inévitable que le procès Pétain serait une source de division entre les Français. Et un exemple, quand un ancien député conservateur des entre-deux-guerres, qui est maintenant oublié, Louis Marin, qui était en politique
très important. Qui est important dans le procès, il va témoigner en premier. Oui.
Et Marin, qui était vraiment un modéré, comme on disait dans la Troisième République, c'est quelqu'un de centre, de droite plutôt, en fait, mais qui était foncièrement, furieusement anti-Pétain. Parmi les témoignages, il était le plus féroce. Et après, il reçoit, j'ai regardé aux archives nationales, tout un dossier où il reçoit des lettres anonymes, vous êtes la verbine, vous êtes un traître, vous êtes manipulé par des juifs, etc. Et donc, énormément de Français qui croyaient en Pétain. Parce que il y a tout le mythe de Pétain des entre-deux-guerres, il y a toute la propagande de Vichy, etc. Et il ne faut pas se souvenir qu'en 40, la France était à terre, en fait, que les Français se sentaient abandonnés par les élites, par les préfets, par les maires, etc. Et il y avait Pétain qui dit avec toute l'autorité de ce grand héros militaire, je fais le don de ma personne et je vais vous protéger, etc. Et ça c'était très très fort.
Il y a le général De Gaulle ajoute quelque chose. Est-ce que vous rappelez cette scène dans votre livre où De Gaulle répond à Pompidou, oui, le maréchal est mort, et Pompidou l'ajoutait, c'est une affaire liquidée. Et là-dessus, De Gaulle reprend la parole et il dit, non, c'est un grand drame historique, et un drame historique n'est jamais terminé.
Oui, non, il avait tout à fait raison. Et on en parle. Je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, mais on en parle toujours.
Oui, bien sûr. On en parlera à la fin de l'émission.
Jusqu'à nos jours, dans les dernières élections présidentielles, on parlait de Pétain. C'est-à-dire, François Mauriac, a dit plus ou moins la même chose. Il y a une citation de Mauriac juste à la fin du procès où il dit un procès. Il écrit ça au Figaro juste après la fin du procès. Un procès comme celui-là n'est jamais clos et ne finira jamais d'être plaidé pour tous, quoi qu'il advienne, Pour ses admirateurs, pour ses adversaires, Pétain restera une figure tragique, éternellement errante, à mi-chemin de la trahison et du sacrifice. Oui. Et De Gaulle, quand il a dit cette phrase que vous citez, c'était un peu la même idée.
Tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du procès. De quoi était-il accusé et de quoi était-il coupable? Parce qu'en fait, il y a une grande confusion. Il y a une grande confusion sur le chef d'inculpation. Mais il y a une grande confusion aussi de savoir, matériellement, on dirait, quel est l'acte, à quelle date, qu'est-ce qu'il a fait qui était si grave.
La question est très compliquée. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, une chose est claire, en fait, de quoi il est coupable, c'est la collaboration. Il faut dire, quand on parle de titres de livres, donc le titre de ce livre en français, comme vous avez dit, c'est le procès Pétain, Vichy face à ses juges. Et en fait, le titre que Le Seuil m'avait proposé au début, c'était la collaboration face à ces juges, et j'ai dit, je préfère Vichy parce que Vichy englobe plus que ça englobe plus. Donc, de quoi est-il coupable? C'est une grande question. Je vais prendre deux témoins de l'époque qui vont nous aider à explorer la question. Donc, De Gaulle, qui est le plus grand témoin de l'époque. Pour De Gaulle, c'était très clair. Pétain est coupable d'avoir signé l'armistice, ou avoir préconisé l'armistice et puis l'avoir signé. Et donc, pour De Gaulle, la trahison, parce qu'il aurait dit le mot trahison, de Pétain date du 16 juin 40. Le discours que j'ai cité où Pétain dit qu'il faut chercher un armistice. Pour De Gaulle, la France n'était pas battue, la France aurait pu continuer la guerre à l'étranger. Donc ça, pour De Gaulle, c'était le péché originel de Vichy. Un exemple. Donc ça, c'est De Gaulle. Il est très clair. C'est le 16 juin, la demande de l'armistice.
Pour trahison.
Trahison, oui. Traître, trahison. Parce qu'on n'est pas battu et on aurait pu continuer à... c'est Bazaine, si vous voulez. C'est le cas du maréchal... Maréchal Bazaine, Bazaine pendant la guerre franco-prusse, qui avait beaucoup marqué la génération de De Gaulle. Il n'était pas né à l'époque, mais il raconte...
Pétain avait 16 ans, 15-16 ans, en 70.
Donc ça, c'est... Pour De Gaulle, c'est clair. Prenons un autre exemple. Raymond Aron. Aron était loin d'être pétainiste.
Oui.
Il était à Londres avec ou à côté de De Gaulle. Il n'était pas exactement gaulliste, mais il a écrit dans le journal La France Libre, énormément d'articles qui attaquaient le régime de Vichy, qui était contre Pétain, etc. Mais, en 45, au moment du procès, avant le procès, Aron a écrit un article dans les temps modernes, où il disait que, selon lui, l'armistice était justifié, on pourrait comprendre, c'était nécessaire, c'était inévitable. Et donc le crime de Pétain pour Aron se date de novembre 42. Et pourquoi novembre 42? Qu'est-ce qui s'est passé novembre 42? C'est en novembre 42 que les alliés, les Américains, ont débarqué en Afrique du Nord, que l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc et plus tard la Tunisie, ont basculé dans le camp allié. Et les Allemands ont riposté en occupant la zone libre. Et la flotte française s'est sabordée. Donc, après novembre 42, il n'y a plus d'empire, parce que Vichy a dit au début, on a gardé l'empire zone libre et flotte. Après novembre 42, il n'y a plus de flotte, plus de zone libre, plus d'empire. Et donc Aron a dit, à ce moment-là, Pétain aurait dû dire, c'est terminé, il n'y a plus rien à protéger, parce que j'étais là comme garant, mais il n'y a plus. Donc il aurait dû partir en Afrique du Nord.
Il y a pensé, quoi. Il dit qu'il y avoir pensé.
Au procès, il y a quelques témoins, des défenseurs de Pétain, qui ont dit on a essayé de persuader le maréchal de partir en Afrique du Nord, mais il n'a pas fait parce qu'il voulait se sacrifier, etc. Mais donc, deux possibles crimes.
C'est ça.
Le crime de n'être pas parti en novembre 42 et le crime de l'armistice. Mais il y a d'autres crimes possibles. Est-ce que le crime de Pétain et d'avoir...
La collaboration.
Vous avez dévancé, j'allais prendre autre chose, mais on prend... il serre la main d'Hitler le 24 octobre à Montoire, 40. Et vous dites, serrer la main d'Hitler, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que la France était neutre. La France n'avait pas signé un paix avec Hitler. Donc symboliquement, de voir ce grand héros serrer la main d'Hitler, c'était... Après, Pétain fait un discours et il dit « j'entre dans la voie de la collaboration, le mot est sorti. »
C'est lui qui le prononce.
C'est lui qui prononce ce discours pour se justifier après. Donc, troisième possibilité, il avait... Donc, on peut dire, là, l'armistice, oui, ça va, c'est justifiable, mais de collaborer avec l'ennemi, ça, c'est autre chose. Troisième possibilité. Quatrième possibilité, au mois de juillet, là, l'armistice est signé le 22 juin 40, et quelques semaines après, à Vichy, Pétain et Laval convoquent ce qui reste des parlementaires pour voter des pleins pouvoirs à Pétain le 9 et 10 juillet 40. Et il faut pour raccourcir, Pétain utilise ses pouvoirs pour plus ou moins abolir la République.
C'est ça.
Pour aller vite.
Ça c'est une quatrième.
J'ajoute une cinquième possibilité. Est-ce que Pétain a comploté contre la République dans les années 30, où il y avait beaucoup de militaires?
Avec la cagoule.
Il y avait la cagoule, des complots contre la démocratie, etc. Et l'accusation, le procureur public voulait pendant le procès...
Il a essayé de prouver ça.
Donc, là, on a déjà cinq possibles crimes. Et ça, c'était un des problèmes de procès. Quel est le crime de Pétain?
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude maintenant, que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de 100 ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des tomis, vous l'ami des teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence, parler, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des tomis, vous l'ami des teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici.
Esprit de justice qui continue de réfléchir en compagnie de Julian Jackson au procès Pétain, à ses origines, à ses chefs d'inculpation, à son déroulement. Julian Jackson qui a choisi de nous faire entendre cette chanson « Les deux oncles » par Georges Brassens. Pourquoi ce choix?
On devine, en fait. C'est pas, c'est, mais euh, le, ce chant, cette chanson est sortie en 1964. Et donc, c'est Brassens qui voulait, ça reflète un peu le côté un peu anarchisant de Brassens, mais qui veut dire maintenant, c'est une vieille histoire, c'est aussi vieille que la guerre des 100 ans, il faut penser à autre chose, il se moque un peu de tout ça. Mais en fait, je l'ai choisi, en fait, à la fois pour montrer, oui, justement, parce qu'une belle chanson, mais je l'ai choisi parce qu'en fait, justement, cette année 64, il y a un déferlement de nouveaux livres sur Pétain, sur la guerre, etc. Donc, loin d'être oublié, la guerre reste. Et même si c'est en partie parce que c'est l'anniversaire de la libération 64, de Gaulle était au pouvoir, mais il y a une vague de livres sur Pétain. Donc, c'est ironique. Brassens voulait dire qu'on oublie. Et je cite dans mon livre, mais cette chanson, mais je cite également le film Domicile conjugal de Truffaut, qui est sorti en 1970. Et il y a une scène très amusante dans ce film où Antoine Doinel, qui est l'héros, en fait, qui est dans la cour de son immeuble, et un électricien vient pour réparer la télévision de quelqu'un, en fait, et il sonne à la porte et personne ne répond. Et donc, il demande à Doinel où est-ce qu'il est. Et Doinel dit il doit être dans son appartement parce qu'il a décidé qu'il n'y mettrait pas les pieds hors de chez lui tant que le maréchal le maréchal Juin, non, plus vieux que ça, celui qui dirigeait la France pendant la guerre. Oh, le maréchal Pétain. Ah oui, le maréchal Pétain. Et donc, ça montre quelques années après que peut-être cette idée de Brassens que
c'est
on allait oublier, mais 3 ans après, on vole le cercueil de Pétain. Donc, je pense que ça reste.
Ça reste. Et on verra en fin d'émission ce qu'il reste toujours de ce procès Pétain. Mais n'anticipons pas. Pourquoi un procès dirigé contre un homme alors qu'en fait, Laval va être poursuivi, beaucoup d'autres vont être poursuivis. Mais là, on fait le choix singulier, de mon point de vue, de tout concentrer le premier procès sur un homme avec un dossier un petit peu mince, avec un dossier judiciaire un petit peu mince, Julia Jackson.
Non, mais il est le. Ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi ça vous étonne. Il est le chef d'État, il était en principe. Le responsable, même s'il n'a pas fait. En fait, c'est le troisième procès de la Haute Cour. Et c'est important, en fait, de dire que c'est le troisième, parce qu'il y a, avant le procès Pétain, la Haute Cour a jugé 2 autres personnes, l'amiral Esteva et le général Gens, qui sont pas oubliés maintenant, je ne vais pas entrer dans leur cas. Mais la défense, dans les 2 cas en particulier, c'est qu'on a obéi aux ordres. Oui. Et donc, c'est une défense, et donc il faut montrer que les ordres en eux-mêmes était était un exemple de trahison. Et donc je pense, non, pour moi c'est tout à fait logique que si on juge quelqu'un, on juge le chef d'État.
Alors on juge le chef d'État. Le chef d'accusation, on l'a vu, est un petit peu flou dans le fond.
Compliqué.
Et puis on le choisit de faire dans un procès qui est relativement court, 3 semaines.
Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est court ou long. Non, c'est une bonne... Le procès Brasillac, après-midi. Le procès Laval, 3 jours. Je ne sais pas si c'est long ou court.
Je pense que pour les standards de l'époque, c'est long.
Oui.
Pour les standards, aujourd'hui, quand on voit le procès du Bataclan, quand on voit le procès de Nuremberg, qui a été plus long, le procès de Tokyo, qui a été très long. Et les procès pour les cours internationales, les TPIR pour le Rwanda. Et d'ailleurs, ce choix est à chaque fois le même. Est-ce qu'on fait un grand procès où il y a tous les chefs, le chef et les subordonnés, ou est-ce qu'on choisit le chef? Là, on a choisi le chef, 3 semaines, et d'ailleurs, 3 semaines, au début, il y a beaucoup de monde, Julian Jackson, puis il y a un moment où on commence à s'embêter un peu dans ce procès.
Oui, ça devenait un peu ennuyeux, la 3e semaine. Il y a 3 semaines pour raccourcir, pour être très rapide. Première semaine, c'était les témoins de l'accusation. Et c'était les vieux routiers de la Troisième République.
Ils étaient tous là.
Qui étaient tous là. Donc vraiment tout le monde. Avant cette émission, on en avait parlé. Est-ce que c'était un vrai procès? Et moi, je veux insister que c'était pas un procès stalinien. On allait trouver Pétain coupable. Mais il y a eu des vraies discussions, des vrais débats. Et pour la première semaine, il y avait à quatre anciens présidents de conseil, l'ancien président du Sénat, l'ancien président de la Chambre des députés, il y avait le ancien président de la République, Lebrun, donc vraiment tous les grands personnages de la Troisième République. Première semaine. Mais le problème avec cette première semaine, c'est que tous ces gens, sauf Léon Blum, dont tout le monde était ébloui par la prestation. Sauf Léon Blum, et même Jackie Zorni, le défenseur de Pétain, ne pouvait pas nier que tout le monde avait, que Blum a montré beaucoup de dignité, force intellectuelle, etc. Mais le problème avec les autres, ils étaient tout ça pour se justifier. Parce que dans un sens, tout le monde était, entre guillemets, coupable, oui, ou complice de la chute de la
République.
Première semaine, ça n'a pas bien marché pour cette raison. Deuxième semaine, c'était le début des...
Alors, avant d'arriver à la deuxième semaine, je voudrais qu'on reste un petit peu, parce que c'est très intéressant de relire ça aujourd'hui. C'est un spectacle un peu pitoyable, cette première semaine, parce que les hommes politiques cherchent à se justifier. Oui. Ils s'attrapent. Alors, il y a une certaine puissance dans les arguments. Hein, il se dit des choses. Mais on voit bien que c'est une classe politique qui s'est effondrée, quoi.
Oui. En fait, déjà, ce qui est dans une atmosphère un peu mystérieuse au procès, c'est que Pétain ne dit rien. Il faut dire au début que il a lu une déclaration le premier jour où il dit qu'il ne reconnaît pas l'autorité de la Cour, qu'il est rentré en France pour se justifier devant le peuple français, mais pas devant cette cour qu'il n'accepte pas. Il dit qu'il a une petite défense, et puis il s'arrête. Il dit, je vais plus dire rien.
En fait, il va parler de temps en temps.
De temps en temps. Et c'était le jugement, en fait. Pour ne pas le faire, c'était ses avocats, en particulier Izorni, qui savait bien que Pétain avait quand même 89 ans. N'importe qui peut confondre des dates, etc. Il n'était pas sénile, mais quand même, il n'était pas. Donc, on préférait qu'il ne dise rien parce qu'il aurait pu facilement confondre des choses, etc. Quelquefois, ce qui montre qu'ils avaient raison, les avocats, que chaque fois qu'ils se levaient pour dire quelque chose, c'était toujours raté. Donc, c'est une bonne chose.
D'ailleurs, dans leur défense, ils n'étaient pas d'accord parce que Payen, le bâtonnier, Tenier Payen, lui, il voulait le faire passer pour un gâteux.
Oui.
Il voulait plaider la personne.
Oui. En fait, pour continuer un moment sur la Troisième République, on revient à ça, en fait. Oui. Donc, la première semaine, il y a le mystère. Il y a ce personnage qui ne dit rien, qui est assis sur son fauteuil, quelquefois.
En grand uniforme.
Oui, tout à fait. Et il y avait eu des discussions entre.
C'est Izorni.
Izorni voulait même qu'il apporte le bâton de maréchal. Mais Pétain a dit, apparemment, selon Izorni, non, ça serait de galvauder, etc., ce symbole, etc. Mais il est en uniforme, il est là et silencieux. Quelquefois, on le voit, il met une main derrière son oreille parce qu'on ne sait pas s'il il a bien entendu ou non. Quelquefois, il sommeille. Et il y a des moments de sommeil. Il fait très chaud. Il ne faut pas oublier. Déjà, Paris au mois d'août est chaud, mais dans cette petite salle, plein de monde, c'était très chaud. Pour les journalistes, c'était une fascination. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme qui frotte son képi, qui joue avec ses gants,
le rouleau de papier de sa déclaration.
Et en fait, là, vous avez remarqué sur la couverture du livre où on voit Pétain en train de regarder sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on posait la question, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc, première semaine, il y avait ces vieux routiers de la troisième. Vous avez raison. Il y avait au début, avant le procès, ce qui donne un côté dramatique au procès, c'est que les deux avocats principaux, il en avait trois défenseurs, mais la troisième, on va pas en parler, il est pas moins important, mais les deux plus importants, c'était Payen, qui était très célèbre, très vieux, qui était un grand personnage.
Qui voulait entrer à l'Académie française.
Qui voulait, son seule obsession, c'était d'aller à l'Académie française. Il y a des anecdotes très drôles sur Maurice Garçon, qui voulait, un avocat très célèbre de l'époque, qui voulait aussi aller à l'Académie française. Il raconte dans son journal de l'époque, quelquefois, il est allé voir un académicien pour avoir son vote, et il voit Payen qui sortait, on imagine que l'académicien a dit oui aux deux. Donc, pour Payen, le plus important, c'était un procès qui causait pas de remous. Il voulait une défense consensuelle. Donc, il voulait dire, oui, Pétain est un grand héros, peut-être il a fait quelques fautes, mais il est très vieux, il a été peut-être égaré par ses conseillers, etc. Donc, c'est une façon de distancier Pétain de ce qui s'est passé. Parce que pour lui, ça serait le plus consensuel. Tandis que le jeune, ambitieux, très intelligent, mais aussi quelque chose, quelqu'un qui veut faire sa marque, Izorni, qui est très jeune, qui dit, il faut tout assumer, on va tout défendre, on va pas dire, non, c'était Laval, on va pas dire, on va assumer Vichy, on va tout défendre.
T'as un talent incroyable.
On peut dire que Izorni, quoi qu'on en pense, il est devenu un personnage de plus en plus pendant la guerre d'Algérie, dérivé plus en plus vers la droite, mais c'était vraiment un personnage charismatique, en fait. Et même Madeleine Jacob, qui était une journaliste de gauche, qui aurait...
Impitoyable
pour tout le monde, qui aurait voulu que Pétain soit guillotiné en public ou fusillé, etc. Elle a dit... Le héros du procès, c'est Maître Izorni. Donc, il avait vraiment... Il y a une photo très célèbre, on voit, qui est dans le livre, où on voit Izorni avec les mains étendues, qui est là, qui plaide, qui supplie, en fait. Et c'est très beau. Mais ces deux... Ça vaut quoi ? Se détestent.
Et risquaient de se neutraliser l'un l'autre.
Oui, ils veulent. Parce que Pétain veut. Pour Izorni, dans un sens, il sait que Pétain. Il a déjà défendu Brasillac. Oui. Mais il sait que Pétain, ça va être l'affaire de sa vie. Ça, oui. Ce qui était le cas.
Mais il a réussi à créer une relation personnelle avec Pétain.
Oui.
Et il allait le voir souvent d'ailleurs en cachette.
En cachette, de
Payet.
Oui.
Mais donc, Pétain lui faisait confiance aussi.
Oui. Donc Pétain était... Il faut savoir que Pétain, quand il prépare, quand la défense est en préparation, Pétain est seul. Il est avec sa femme, et à part sa femme, il est dans le fort de Montrouge. Pendant toute la période de Vichy, il a été entouré, il a eu ses conseillers, etc. Maintenant, ce vieil homme est seul. Tout avait désemparé. Donc, pour Payen, il veut montrer que... Donc, il veut un Pétain gâteux, dans ce sens. Ça, oui. Et le premier...
Ça vexe Pétain, d'ailleurs. Pourquoi on dit que je suis gâteux?
Oui, Pétain... Et la première fois que les deux avocats voient Pétain ensemble, Pétain confond quelques dates, il confond une réunion qu'il aurait dû avec Göring, il confond les dates, etc. Et Payen, il dit à Izorni, vous voyez, les gâteux. Mais le lendemain, Izorni retourne au fort sans disant rien. Il prend sa bicyclette, il n'y a pas de taxi à l'époque, parce que c'est juste l'essence est rare. Et donc, il va voir Pétain, il dit plus ou moins, je veux vous aider à être vous-même, mais vous devez assumer. Il dit même les mots, il dit à Pétain que ça serait comme le procès de Louis XVI, c'est aussi important. Et il dit à Pétain, je vous fais le don de ma personne. Et donc Pétain est vraiment galvanisé par ça, parce que quelqu'un qui croit en lui.
Mais alors, il y a aussi la stratégie d'Izorni, c'est de faire porter le chapeau, comme on dit en français, de faire un bouc émissaire, non pas de Pétain lui-même, mais Laval.
Non, c'est pas Izorni.
C'est pas Izorni.
Non, c'est pas... Parce que Izorni voulait... Pour Izorni, il fallait pas avoir honte. Il faut tout assumer.
Il faut assumer.
Mais c'est pas rien qu'il voulait. Dans la première semaine, chaque fois qu'un témoin... Chaque fois qu'il y avait un témoin, Payen essayait de faire dire « Oui, mais quelle était la relation entre le maréchal et Laval ? Est-ce que ce n'est pas Laval qui a pris cette décision ?» etc. Et chaque fois... Heureuse, parce que Payen pensait que Laval ne serait pas au procès.
Voilà,
mais
écoutez,
à la grande surprise, voilà. Vraiment c'est le coup du procès pendant la deuxième semaine. Laval qui a été en Espagne a été expulsé d'Espagne. Il s'est réfugié en Espagne. Il a été envoyé dans la zone occupation en Allemagne et les Américains le donnent aux Français. Donc soudain Laval arrive. Donc la personne dont tout le monde parlait pendant la première semaine en sachant qu'il serait pas là arrive.
C'est un personnage qui est le contraire de Pétain. Il est petit, il est laid, il est terrible.
Il est formidablement intelligent. Mais oui, tout à fait. Il est le contraire de Pétain. Il est le bouc émissaire idéal. Mais il faut dire que c'est pas vrai que Izorni voulait. il voulait que Pétain assume. Et c'est l'autre en fait, qui voulait faire porter le chapeau à Laval. Et il faut dire que la prestation de Laval dure 2 jours et c'est vraiment le clou du procès, en fait.
Et puis en même temps...
Albert Camus, qui est journaliste, parce que le procès était suivi par tous les journalistes.
Par Mauriac, par Camus, par Mitterrand. Mitterrand était là.
Mitterrand est là pour 2 jours. Il y a Mauriac, il y a Kessel, il y a Léon Vert.
Merveilleux Kessel, merveilleux Kessel.
Les témoignages que je cite longuement dans le livre. Mais Camus n'est pas présent au procès, normalement parce qu'il est en train de faire des répétitions pour sa pièce Caligula. Mais Laval, il est là. Tout le monde est là pour Laval.
C'est ça. Et puis il y a des événements internationaux. Hiroshima arrive pendant le procès. Camus fait son fameux article dans Combat.
Oui.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de ce parcours du procès Pétain en compagnie de Julian Jackson. Et pour vous parliez, Julian Jackson, de domicile conjugal, et c'est pour ça qu'on a...
Oui, c'est une bonne idée.
On a passé la bande originale de ce film qui est sorti en 1970 de François Truffaut avec une musique d'Antoine Duhamel. Alors un mot sur le verdict, Julian Jackson.
Oui, donc après les 3 semaines, il y a 27 jurés.
C'est très inhabituel pour
la cour française. Oui. Non, c'était une cour spéciale qui avait des règles. Donc il y avait les jurés étaient composés de 12 résistants et 12 parlementaires élus dans les années 30, parce que le Parlement existait toujours en principe, mais des parlementaires qui n'avaient pas voté pour Pétain, les prendre pouvoir pour Pétain en juillet 40. Donc, on peut dire que c'était biaisé, en fait.
C'est évident.
Mais je veux vraiment insister, parce que j'espère que c'est l'intérêt de mon livre, un peu, c'est pour montrer quand même... J'insiste que c'était un vrai procès, un vrai débat. Mmh. Et une source que j'ai trouvée, que je trouve très intéressante, qui était inédite en fait, c'est le journal d'un des jurés, qui était un résistant de la première heure. Un homme de droite, plutôt conservateur, mais anti-pétainiste depuis le premier jour. Il s'appelle Jacques Lecomte Boisnet. Oui. Il est parmi les résistants, donc il est un juré résistant. Et il prend le procès au sérieux. Il est un peu dégoûté par ceux de ses confrères qui ont décidé avant, tout à fait. Il y a 2 ou 3 communistes qui ne veulent pas écouter les arguments qui veulent.
Les communistes qui sont radicaux.
Oui,
très, radicaux dans le procès.
Pour les communistes, à l'époque, Pétain doit être fusillé.
Ça pose pas de problème.
Non, ça, c'est clair. Mais pour le comte Boinet, il se dit, bon, je suis là, je vais essayer d'écouter les arguments et je vais décider. J'ai haï Pétain, je l'ai combattu, mais maintenant, je suis un juré. Et donc, on voit ces états d'âme, ces délibérations. Après le témoignage de Laval, il écrit, oui, j'ai détesté Laval, mais je vois qu'il y a quand même des arguments de l'autre côté, etc. Donc il pèse. Et à la fin, quand il y a la délibération des jurés qui dure à peu près 7 heures, donc
dans la nuit,
21 heures jusqu'à 4 heures du matin à peu près, je ne sais pas exactement. J'ai dit 27 parce qu'il y avait les trois magistrats aussi, les trois juges. Et donc il vote, il y a des discussions. Et après, et le comte Boinet, après toutes ces hésitations, et vraiment il est scrupuleux. Et c'est pour ça que je dis que c'est pour ça qu'il m'intéresse, parce qu'il
son cas montre qu'il juge.
Il essaie de savoir. Et à la fin, il vote pour la mort. Et il dit dans son journal, il n'en est pas fier, mais il dit dans son journal, il y a toutes les raisons qu'il a. Pour lui, en fait, la grande culpabilité de Pétain, c'est d'avoir soutenu publiquement les Français en uniforme allemand qui sont allés combattre au front de l'Est. Mais il dit dans son journal, avec pas beaucoup de fierté, alors je suis pétanicide.
Donc,
il y a ce débat parmi les jurés, et en fin de compte, il est trouvé coupable sous l'article 75 du Code pénal, l'intelligence avec l'ennemi, et 97, qui est attentat à la République ou quelque chose.
Mais c'est drôle de condamnation à mort, parce qu'il est condamné à mort, mais on dit, mais on recommande qu'elle ne soit pas exécutée.
Oui, mais symboliquement, c'était très court. La majorité, c'était entre 14-13. Ah, donc, oui. C'était une seule voix de majorité pour la mort.
Pour la mort. Les autres étaient pour prison.
Tout le monde, il était coupable.
Une faible majorité pour la mort.
Faible majorité pour la mort. Alors, et donc avec une recommandation que la sentence ne soit pas exécutée. Bien entendu, tout le monde savait que de Gaulle allait envoyer Pétain en prison. C'était grotesque et dangereux de fusiller quelqu'un de 89 ans qui était un grand héros.
Et puis cet homme qui incarne l'ambiguïté.
C'est ça, exactement.
L'ambiguïté du héros. Alors, un jury dans lequel il n'y a pas une femme.
Oui, en fait, pour la première fois, il aurait pu avoir les femmes, parce que les femmes, depuis quelques mois, avaient le droit de voter, donc en principe, mais il n'y avait pas de femmes. Il y avait deux femmes qui étaient recusées par la défense, parce que la défense avait le droit de recuser trois personnes parmi les femmes recusées, Lucie Aubrac, par exemple, que tout le monde connaît maintenant.
Ah, Lucie Aubrac qui aurait pu siéger.
Oui, elle était sélectionnée, parmi les qui auraient pu, mais elle était isolée en fait. Oh. On avait trouvé trop. Et également la femme d'un député socialiste qui s'appelle Jules Mock, femme Germaine Mock.
C'était de.
En fait, il y a très peu de femmes dans cette histoire.
Oui.
C'est-à-dire que parmi les témoins, il y a 70 témoins, à peu près une femme.
Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes, Joan Jackson, mais il y a aussi un autre grand absent. D'autres grands absents que sont les Juifs. Oui. C'est-à-dire que on ne consacre très peu de temps à parler des déportations, à parler du décret d'octobre 40, dont on sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque, maintenant on a retrouvé la copie annotée de la main de Pétain, qui est sur le statut des Juifs. Mais on n'en parle pas dans ce procès.
Oui, en fait, j'ai un chapitre qui s'appelle « Les Juifs absents », c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ça qui nous étonne aujourd'hui.
Bien sûr.
À mon avis, ça ne m'a pas étonné, et dans un sens, je dis le contraire. J'étais surpris à quel point on parlait des Juifs, c'est-à-dire pourquoi je dis ça. N'oubliez pas que même à Nuremberg, les Juifs n'étaient pas centrales. La spécificité de l'Holocauste est quelque chose qui devient évident à partir des années 60, à partir du procès d'Eichmann à Jérusalem. Donc déjà, l'Holocauste n'était pas vu. Donc les déportés étaient vus comme les déportés résistants, les déportés. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, on ne savait pas. Vraiment, vous avez raison, on savait que
le
statut des
Juifs... Il y avait les gens qui rentraient à l'hôtel Lutetia, quoi.
Mais comment
il y avait les déportés qui rentraient à l'hôtel Lutetia,
c'est drôle. Tout à fait, mais on ne faisait pas la différence, c'est distinction ça. Entre les déportés juifs et les déportés qui retournaient, les peu de Juifs qui retournaient. Mais je veux dire aussi que... On n'avait pas les documents qui montraient ce qu'on sait maintenant sur la complicité de Vichy. Et juste une anecdote pour montrer comment cette question a été vue pendant le procès. Parmi les jurés, le plus âgé des jurés était un ancien parlementaire qui s'appelait Georges Alfondery Lévy, qui était alsacien et juif. Et pendant les discussions des jurés, il aurait dit, en tant qu'Alsacien, je voterai la mort parce que Pétain n'a fait rien pour garder l'Alsace. En tant que juif, je serai contre la mort parce que je pense que Pétain a fait de son mieux de protéger les juifs.
Pour montrer. Il le pensait.
Pour montrer comment la chose était vue à l'époque.
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup d'autres choses à faire, à dire ce sujet, mais ça, c'est l'essentiel.
Julian Jackson, vous êtes historien, un grand historien de la vie politique française, donc que vous connaissez parfaitement. Est-ce que ce procès vous a appris quelque chose? Et qu'est-ce qui vous a appris?
En fait, ça n'a rien appris sur l'histoire de Vichy, parce que je connaissais déjà l'histoire de Vichy. Et pour moi, l'intérêt du procès n'était pas de re-raconter, si vous voulez, l'histoire de Vichy, qui a été écrite par des grands historiens. Par exemple, la question de Juifs, Serge Klarsfeld, Robert Paxton, etc. Mais, j'étais surpris à quel point c'était un vrai procès, en fait, pour revenir au début.
On en revient toujours là.
Et le décalage, et pour moi, l'intérêt du procès, c'est d'essayer de creuser, montrer le décalage entre ce que nous savons aujourd'hui et comment cette histoire a été perçue par les contemporains. Et donc, je ne pensais pas que j'avais saisi cette différence. Si on m'avait posé la question, je ne sais pas si les auditeurs ont cette idée ou non, si on m'avait posé la question avant d'avoir écrit le livre, j'aurais dit oui, en fait, ce procès n'était pas un procès sérieux.
C'est un procès politique.
Et pour moi, c'était un procès politique, mais c'était un vrai... Je répète toujours, procès.
Et c'était aussi, alors c'était la France qui se jugeait elle-même,
hein,
la France on trial, on en revient toujours là aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit pour vous, Julian Jackson, qu'est-ce que ça dit de la France et de cette première partie, cette terrible première partie du XXe siècle français? Cette ambiguïté où finalement, jusque très tard, vous le soulignez encore il y a un instant, jusque très tard, Pétain est très populaire et la classe parlementaire très impopulaire.
Oui.
Et donc, ça veut dire qu'il y a un rapport au chef qui ressort dans tout ce procès.
Pour moi, on a continué à parler du cas Pétain, si vous voulez, jusqu'au présent. Vous avez cité au début de cette émission De Gaulle et moi j'ai cité Mauriac. Il y a une scène très émouvante. Je ne sais pas si vous connaissez dans le film Ophuls, Le Chagrin et la Pitié, où le ministre des Affaires étrangères britannique Anthony Eden est interviewé par Ophuls et il dit à un moment, d'une façon très émouvante, c'est très facile pour nous qui n'ont pas été occupés, qui n'ont pas été vaincus, de juger un pays qui a vécu cette histoire. Donc déjà, je pense que c'était une espèce de traumatisme, cette histoire. Et ce qui fait que cette histoire soit si traumatique, à mon sens, pour les Français, c'est que, à la différence des Pays-Bas, Belgique, Norvège, en France, il y avait un gouvernement qui était, entre guillemets, légal. C'était un gouvernement légal parce que Pétain, le gouvernement Vichy était reconnu par les Américains, par Roosevelt. Donc c'est pas que en Belgique, en Hollande, il y a eu des collaborateurs, bien entendu, autant qu'en France, peut-être plus, je sais pas. Mais ça c'est pas la question. En France, c'était l'État.
Les institutions, à cause de
Vichy. Et donc, ça change le rapport de la mémoire collective avec la période, parce qu'il s'agit de...
C'est ça.
Il y a toute la question est-ce que Vichy était la France,
etc. Ah oui, alors
qui a été...
pas,
mais... oh, non, non, on va pas en parler parce que
non. On va parler d'une autre affaire.
Oui, allez-y.
Non, je voulais parler de l'affaire Dreyfus parce que c'est très intéressant de voir la réaction, cette relation qui est faite par les contemporains et notamment par Maurras. Et l'affaire Dreyfus, dans le fond, elle est Dreyfus a vaincu.
Oui, non, tout à fait. Ça, beaucoup de gens avaient le précédent de Dreyfus dans leur tête. Et Maurras a dit après son procès qui a eu lieu à Lyon, c'était pas la haute cour, mais c'était une cour d'assises. Maurras a dit c'est la revanche de Dreyfus. Je veux pas faire. Il me semble que dès qu'on commence à essayer de défendre Pétain. Je vais un peu parler de la vie politique contemporaine, un peu rapidement. Quand Éric Zemmour, par exemple, il y a 2 ans, a essayé de réhabiliter la politique juive du régime de Vichy...
Morceau
de bravoure, oui. C'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé.
Oui, c'est ça, oui.
Non, tout à fait. Mais quelques mois après... Il a sorti cette phrase disant que c'était pas 100% sûr que Dreyfus.
Oui, ce qui est incroyable.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Bien sûr, ce que je
veux dire, c'est que dans un sens, ce sont des grands. C'est la fêlure,
qui demeure de
la France au XXe siècle.
Mais qui demeure parce que quand Elisabeth Borne rappelle les origines vichistes du Rassemblement national, elle se fait recadrer par le président.
Je trouvais que dans cette controverse, je cite ça à la fin du livre, à mon avis, tous les deux avaient raison, en fait. C'est-à-dire, en même temps, je peux être seulement le même temps de Jackson. C'est-à-dire, tous les deux avaient raison. Le président Macron avait raison de dire, à mon avis, qu'il faut quand même combattre le Rassemblement National, si on veut le combattre, par les arguments sur sa politique économique, etc. Donc, il faut quand même parler du présent. Mais, je trouve également sa première ministre, Elisabeth Borne, avait raison de dire quand même ce parti, ce mouvement a une histoire. Et actuellement, on est dans une France où il est possible pour des gens de droite de dire d'un footballeur français, Benzema, qu'il est un Français de papier. Et ça, c'est pour moi le langage de Vichy. C'est ce qu'on aurait pu dire de Marc Bloch en 40. C'est-à-dire, c'est quoi un français soit on est français ou on n'est pas français. Un français de papier, ça n'existe pas. Donc pour moi, ça c'est un discours proto-pétainiste, post-pétainiste. Et donc je crois que Elisabeth Borne avait tout à fait raison à montrer que même si ce parti se distancie maintenant de cette période, quand même, il y a une filiation. Et donc pour ça, je trouve que tous les deux avaient raison.
Donc finalement, le procès Pétain, c'est le procès de la fracture française.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et qui n'est pas pensé, qui n'est pas guéri.
Qui n'est pas à 100%. Non, à mon avis, c'est qui n'est pas à 100% guéri. Mais c'est dur parce que très rapidement, dernière chose, j'ai suivi à la fin du livre tous les sondages qu'on a fait de Pétain depuis sur l'opinion publique et Pétain. Et j'étais frappé par le fait que une grande majorité des Français ont approuvé le discours de Jacques Chirac en 95 pour dire que la France
était...
Sur le Valdive, etc. Donc, ça a été applaudi par une grande majorité, mais au même temps, quand les sondeurs posent la question, mais qu'est-ce que vous pensez du maréchal Pétain? C'est étonnant à quel point l'opinion publique a à peine bougé. Et si on pose la question, est-ce qu'il est un traître? Très peu. Est-ce qu'il est héros? Très peu. Mais est-ce qu'il a fait de son mieux de protéger les Français? Est-ce que l'armistice était justifié? Normalement, c'est autour de 60 qui montre, en fait, que les Français peuvent avoir 2 idées simultanées dans leur tête.
Oui, mais c'est
la fracture dont vous parlez, en fait.
C'est ça.
Oui.
Et c'est la fracture du XXe siècle.
C'est la fracture du XXe siècle.
C'était le grand vainqueur de Verdun.
C'est peut-être la fracture de la Révolution française, je sais
c'est
pas.
Ça, mais, c'est ça. Et c'est ça qui, pour dernier mot, Julian Jackson, vous connaissez bien l'histoire de la France, c'est ça qui caractériserait la sociologie politique française, la culture politique française, cette fracture.
Et c'est pour ça que l'histoire de la France m'a toujours intéressé, parce que c'est plus. N'oubliez pas que nous-mêmes avons coupé la tête d'un roi. Nous étions en avant. Et en fait, à l'époque, on a comparé le procès Pétain avec le procès Louis XVI et le procès Charles Ier, notre roi. Mais on n'a pas cette histoire fracturée que vous avez.
C'est ça, voilà. Eh bien, Julian Jackson, le procès Pétain, Vichy face à ses juges, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci.
Esprit de justice est terminé ce soir. À la technique, il y avait Ruben Camazin. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Sandrine Chaperon. Une émission d'Antoine Garapon.